bonsoir. Son Marc Capot, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS, a été destitué hier lundi 25 mai tard dans la nuit par les députés nationaux. C'était à l'issue du vote d'une pétition visant sa destitution, initiée par le député Jean-Jacques Mamba. Sur les 315 votants, 289 ont voté pour, 17 contre, alors que 9 se sont abstenus, signalant qu'une bagarre a éclaté entre députés à l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture des débats sur la pétition visant la destitution de Jean-Marc Cabot. Question erronée sur le cours de l'organisation du congrès. Situation, cette destitution pourrait-elle avoir un impact sur la coalition de ce soir et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dr Didi Manara, député national parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est aussi coordonnateur des députés, non plutôt coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC. Dr Didi Manara, bonsoir.
Bonsoir madame, je salue également les nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Laurent Batoumona, député provincial, il est coordonnateur des forces politiques alliées à l'UDPS, FPAU. Laurent Batoumona, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Le professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci de nous suivre dans la commune de Libé, ici à Kinshasa, sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai destitué de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale, de 189 députés sur les 346 présents à la plénière ont voté en faveur de la pétition du député MLC Jean-Jacques Mamba contre Jean-Marc Kabound. Ce vote est intervenu tard dans la soirée après une suspension de la plénière à la suite d'une bagarre déclenchée par les députés de l'UDPS qui ont tenté en vain d'empêcher l'examen de la dite pétition. Le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale est donc désormais vacant et l'UDPS devra proposer un autre candidat en remplacement de Jean-Marc Kabound. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
C'est au cours d'une plénière sous tension que les élus du peuple ont voté pour la déchéance de Jean-Marc Kabound. 315 députés ont pris part à ces votes et 289 ont voté pour la pétition de Jean-Jacques Mamba. Jean-Marc Kabound est donc déchu du poste du premier vice-président de la Chambre basse. Ce vote est intervenu malgré la motion de Tony Mouaba de l'UDPS qui s'est opposée à l'examen de cette pétition. Le rejet de cette motion par la plénière suite au recadrage de Jacques Joly du MLC a suscité une bagarre entre députés. Il a donc fallu pour la présidente de l'Assemblée nationale Jeanine Mabunda de suspendre la plénière avant de la reprendre quelques minutes plus tard pour remettre de l'ordre dans l'hémicycle. Tout cela s'est déroulé en l'absence des concernés, Jean-Marc Kabound visé par la pétition, comme de son auteur Jean-Jacques Mamba du MLC. Ce dernier est toujours en détention préventive par le parquet général près la Cour de cassation, qui le poursuit pour faux et usage de faux en écriture contenu dans la dite pétition.
Merci Michel Kifindangoy, docteur Didi Manara. Je rappelle que vous êtes député national et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi coordonnateur des présidents des groupes parlementaires membres du FCC, Jean-Marc Kabound, destitué de son poste ou de sa fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur les 315 votants, 289 ont voté pour, 17 contre, alors que 9 se sont abstenus. Comment vous expliquez cette situation?
Merci beaucoup de la question, madame. Je crois que nous ne devions pas en arriver là, arriver jusqu'à la destitution de notre collègue M. Jean-Marc Kabound Kabound du poste de premier vice-président de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, tout cela est arrivé parce qu'il y a eu beaucoup de fautes professionnelles, je crois, qui ont été commises par notre collègue premier vice-président, parce que le collègue Jean-Jacques Mamba, honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Kinshasa ici, dans l'exercice de ses fonctions régaliennes, lui reconnues par la Constitution, il avait adressé une question, une pétition, à l'issue d'une déclaration fulgurante de notre collègue, le premier vice, Jean-Marc Kabounds, où il a allégué que l'organisation d'un congrès au niveau de l'Assemblée nationale consommerait 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, madame. Et je crois que cette déclaration a eu un effet très flagrant au niveau de l'Assemblée nationale, si bien que les députés étaient totalement mécontents, et alors c'est tous les députés, parce que les députés étaient appelés par leur base pour dire, mais il y a beaucoup de problèmes très sérieux qui se posent au pays, nous avons le Covid-19, nous avons le problème de scolarité des enfants, le taux d'inflation qui est pratiquement galopant, des problèmes sociaux divers, comment est-ce que vous, au niveau de l'Assemblée, vous pouvez consommer pour une seule journée 7 millions de dollars? Voilà pourquoi notre collègue, et c'est à raison vraiment qu'il a écrit au regard de notre règlement intérieur, une question qui a été posée à notre collègue Jean-Marc Kabounds pour qu'il réponde. Parce que lorsqu'on prend de telles allégations, on a le droit de redevabilité. On doit expliquer pourquoi on a fait ça. Et malheureusement, notre collègue Jean-Marc Kabounds n'avait pas répondu à la première correspondance, à la deuxième correspondance et même à une troisième tentative de dialogue avec notre collègue qui est aujourd'hui Jean-Jacques Mamba en prison. Bon voilà. Vous savez qu'il a encore commis, notre collègue Jean-Marc Kabounds, jusqu'il est allé jusque à pratiquement molester l'assistant de Jean-Jacques Mamba qui est allé déposer à son bureau une correspondance. Alors, à l'issue de ça, je crois que le reste n'était que le cheminement normal d'un processus démocratique dans notre chambre.
Alors, docteur Didi Banara, ce vote est intervenu malgré la motion du député Tony Mwabade, l'UDPS, qui s'est opposé à l'examen de cette pétition. Est-ce qu'il était vraiment urgent de procéder hier lundi au vote?
Oui, bien sûr, parce que le règlement intérieur stipule que lorsqu'une pétition remplit les conditions, et là j'aimerais dire qu'il n'y a qu'une seule condition qui est retenue par le règlement intérieur, c'est le nombre de signatures. Et le nombre de signatures pour un membre ordinaire du bureau, c'est 50 signatures. Et cette pétition a contenu plus de 50 signatures. Donc je crois qu'ils sont allés jusqu'à 62 signatures. Alors, la condition était absolument atteinte. Mais alors, vous parlez de l'intervention de l'honorable Tony Mwaba. Mais il a pris, ça m'a vraiment étonné que notre collègue ait si tapé à côté. Parce qu'il a parlé, lui, d'une disposition qui n'avait rien à faire avec la disposition de l'examen d'une pétition au niveau du bureau, des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi presque sa motion a été balayée du revers de la main par pratiquement tous les députés qui ont siégé ce jour-là au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'était important parce que lorsqu'on dépose une pétition, lorsqu'elle est acceptée par le bureau, dans les 72 heures, Il est dit que dans les 72 heures, on doit examiner cette motion, cette pétition, jusque lorsqu'on ouvre les débats, on doit aller jusqu'au vote. Et Madame la Présidente avait fait ça. Dans les 72 heures, elle avait déclaré que nous avons une pétition sur la table qui a totalisé 62 signatures, mais nous devons examiner cette pétition, mais nous avons un problème de décès au niveau de l'Assemblée nationale. Un collègue était décédé. Dans cette situation, on ne pouvait pas examiner, mais l'Assemblée plénière avait jugé bon d'adopter l'attitude du bureau, disant que nous enterrons d'abord notre collègue, et puis après nous allons rentrer pour examiner cette pétition. Voilà, nous avons examiné la pétition, et tout ce qui est arrivé, c'est pratiquement démocratique.
Alors, vous avez examiné une pétition alors que son auteur est poursuivi pour faux et usage de fraude en signature contenue dans la dite pétition?
Extraordinaire, avec nos cours de tribunaux. Nous pensons vraiment que là, cette institution-là, nous pensons vraiment qu'elle commence à s'avirer vers une dérive plus ou moins dictatoriale, je peux le dire. Vous savez, madame, nous étions tous très stupéfaits que le parquet général, près la Cour de cassation, ait qualifié ces faits-là d'infraction flagrante sur la seule déclaration de l'honorable Mtiana Mtumba Simon. Alors qu'il existe des députés signataires de la dite pétition disposés à témoigner et à dans ces allégations. On ne peut qualifier ces faits des factions flagrantes qui supposent une infraction qui s'est commise ou qui est en train de se commettre. Mais savez-vous, madame, qu'il s'est passé 10 jours entre le dépôt de la pétition et l'arrestation de notre collègue. Donc nous, nous sommes très indignés du fait que notre collègue a été arrêté en toute violation de ses unités. Savez-vous, madame, que l'article 101 du règlement d'ordre intérieur et l'article 107 de la Constitution stipule qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, détenu, ni jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice régalien de ses attributions. Vous savez, alors, nous étions très, très estomaqués d'entendre que notre collègue a été arrêté chez lui à la maison, devant sa femme et ses enfants, acheminés par le parquet vers des destinations inconnues. Voilà ce qui a encore une fois énervé les députés au niveau de l'Assemblée par cause de cette violation. Donc, voilà, dans ce contexte-là, le résultat, oui, madame.
Alors, la pétition est venue de l'opposition, mais soutenue à 70% par les membres du FCC, alors qu'on sait que le FCC et CACH sont en coalition.
Bien sûr, je confirme que le FCC et CACH sont en coalition, mais je vous dis, madame, que si c'était le FCC qui avait initié cette pétition, elle porterait plus de 300 signatures. Parce que nous avions initié une première pétition lorsque le premier vice-président Jean-Marc Kaboul avait déclaré que nous allions, nous, nager. Donc il s'est présenté en posture de maître nageur. Nous avions pris, nous, une pétition. Elle avait comporté 312 députés. Et moi, Manara qui vous parle, j'étais l'initiateur de cette pétition. Mais à cause de cette coalition, et en tout cas les instances dirigeantes de notre famille politique, ont dit non, arrêtez cette démarche. Nous sommes en coalition. Mais alors, à cause
de cette déviation, dirigeante, vous ont donné le feu vert pour destituer Jean-Marc Kabound.
Pour la pétition, en tout cas, il n'y a eu aucun mot d'ordre. Voilà pourquoi il n'y a eu que quelques députés, moins de 10, du FCC qui ont dû signer. Moins de 10, en tout cas, qui ont signé cette pétition.
Merci.
Je vous assure, madame, que si c'était une pétition signée par nous, elle comporterait plus de 300 signatures. Mais regardez un peu le résultat de la pétition au niveau de l'Assemblée nationale. 289 députés sur 315, ça représente 99% des députés qui ont pu...
Docteur Didier Manara, on vous garde encore dans l'émission. Le temps pour nous de donner la parole à Laurent Batoumona, qui est député provincial. Il est coordonnateur des forces politiques alliées à l'UDPS. Laurent Batoumona, comment vous analysez cette destitution de Jean-Marc Kabound?
Madame les journalistes, je commence d'abord par saluer tous les auditeurs de la radio Capi et aussi féliciter les collègues députés nationaux de l'UDPS qui ont certainement rejeté le vote de cette pétition. Je crois que les 17 qui ont voté contre, certainement, ce sont les députés nationaux de l'UDPS. Ils ont droit à des félicitations. Il faut d'abord rentrer à l'origine de la pétition, madame. L'origine de la pétition était, selon la famille politique de l'UDPS, était de pouvoir ébranler la coalition. Voilà pourquoi le président AI de l'UDPS avait pris le courage en main pour pouvoir demander à ce que ce congrès ne puisse pas se tenir. Et rien n'est secret, je peux vous dire qu'un congrès coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent au-delà de 7 millions de dollars, parce que si vous prenez les députés nationaux qui sont autour de 500, les sénateurs qui sont autour de 100 ici, ça fait 606. Vous prenez les membres qui accompagnent les cabinets de deux chambres, mais ça peut aller au-delà. Et je pense que Kaboun avait raison à ce temps-là de dire que nous sommes préoccupés par les problèmes du coronavirus 2019. Il n'était pas question que les congrès puissent se réunir. Et plus tard, c'est la pétition qui sera présentée. Madame journaliste, je vous dis, une pétition doit réunir un certain nombre de préalables, entre autres la notification du concerné. C'est ce qui a été fait d'une manière tardive, pendant que ça chauffait déjà au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale. Deux, il a été constaté qu'il y avait de faux en écriture. Et là, ce n'est pas aux députés nationaux de pouvoir témoigner, mais il a fallu que les concernés, c'est-à-dire le président Jean-Marc Abound, puissent aller au service de la chancellerie, constater si les signatures qui étaient apposées sur la pétition sont conformes à celles qui sont apposées, qui sont déjà reconnues au service de la chancellerie, d'une part et d'autre part, parce qu'à chaque plénière, les députés nationaux apposent leur signature sur la journée de la plénière. Et nous pensons que cette plénière d'hier avait des vices de fond. Vices de fond, pourquoi? Parce que déjà, rendez-vous compte que la justice est en train de poursuivre les collègues. Certainement, il y a des faits qui ont été reconnus par la justice, selon lesquels il y aurait flagrance. Je ne suis pas à l'interne de la justice, mais je crois que si la justice est en train de pouvoir gérer un dossier, il y avait lieu de suspendre cette pétition qui a abouti à la déchéance du président Jean-Marc Abound. Pour moi, je pense qu'il y avait vice de forme selon laquelle le président de l'Assemblée nationale, Jeannine Mabunda, aurait dû présenter la situation d'une manière transparente aux députés nationaux qui étaient en plénière, en disant que voilà, monsieur le député, notre pétition qui est en train d'être débattue aujourd'hui, durant cette séance, comportait des vices selon lesquels la justice a déjà poursuivi les pétitionnaires, d'une part, et d'autre part, ils estiment qu'il y a des faux en écriture. Et cette pétition n'aurait pas été débattue pour pouvoir faire des choix le président Jean-Marc Abound, et nous disons qu'il y a vice des formes. Et d'autre part, madame, nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition avec le FCC. Rendez-vous compte que les pétitionnaires viennent du MLC. Mais s'il y a eu 289 qui ont voté pour, mais ces 289 sont venus d'où? Vous devez noter qu'il y a une partie du MLC et une grande partie de la même famille qui est en coalition avec l'UDPS. Nous pensons, et comme j'ai toujours allé dénoncer, qu'il y a hypocrisie dans cette coalition. Voilà, madame, ma réponse à ce sujet.
Alors, monsieur Laurent Batoumona, vous estimez que c'est un plan qui était déjà bien préparé, bien ficelé pour faire partir le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement?
Je note qu'il y avait déjà un plan prémédité qui était déjà conçu au départ, et les députés pétitionnaires n'ont fait qu'endosser cette machination qui était déjà en route. Ça, c'est de un. De deux, la justice est en train de poursuivre un dossier. Comment était-il possible que le président de la Chambre puisse arriver à ce que son collègue puisse tomber à la déchéance? Je pense que voilà pourquoi je dis qu'il y avait machination. Et aussi, ça, c'est le point de vue de l'honorable Laurent Batoumona qui n'engage que moi-même, parce que l'IDPS ne s'est pas encore prononcé par rapport à cette déchéance. La coordination des forces politiques à l'aide de l'IDPS aussi ne s'est pas encore réunie pour pouvoir siéger concernant les conséquences que comporte cette déchéance.
Mais pourquoi, selon vous, M. Laurent Batoumona, Jean-Marc Kaoud, qui on avait demandé de rendre public le document qui reprend le budget de la convocation d'un congrès pour la crédibilité du Parlement, avait refusé de le faire? C'était pourtant simple pour lui, mettre fin à ce débat qu'il y avait entre les chiffres que lui avait avancés et ce que les autres députés disaient.
Madame, je ne peux pas rentrer à l'origine de la pétition, ce que je sais. La pétition a été enclenchée. Il a fallu que ça puisse être géré d'une manière, je ne peux pas dire assez, comment dirais-je, il a fallu, parce que je l'avais dit avant que le débat puisse commencer, 4 jours avant, que je pensais que madame la présidente de la Chambre basse du Parlement devait s'entourer de beaucoup de sagesse pour pouvoir annoncer cette question de pétition, parce que je vous dis, madame, à mon avis, les conséquences deviendront incalculables par rapport à ça. Et dites-moi, si l'UDPS refuse désormais de pouvoir faire remplacer le président Kabounda, qu'est-ce qui adviendrait? C'est aussi une hypothèse qui est envisageable. Il n'est pas forcément obligé, l'UDPS, de faire remplacer le président Kabounda par un autre député de l'UDPS. Il peut aussi dire, bon, chers amis de la coalition, étant donné que vous êtes majoritaire, vous pouvez gérer votre poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Ça aussi, ce sont des possibilités envisageables à l'heure actuelle.
Merci Laurent Batumona, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Quelle est votre lecture, professeur, par rapport à cette situation?
La destitution de Jean-Marc Kabounda nous donne plusieurs enseignements. La première, c'est qu'en réalité, la majorité a changé de nature. Si vous comparez la législature actuelle par rapport à celle de 2006 et de 2011, une telle pétition n'avait aucune chance de passer. Et donc, aujourd'hui, on est très surpris de voir qu'en fait, il y a un changement de nature de la majorité. Et les anciennes majorités de 2000, donc la législature de 2006 et 2011, étaient caractérisées par une très grande solidarité, mais à la fois, ils se soutenaient. On sentait une force unie. Et donc, une telle pétition n'avait aucune chance de passer. Le deuxième enseignement, c'est qu'en fait, on a là affaire à une véritable désillusion de l'UDPS comme force politique alternative et pratiquement son effacement par rapport à cette, dans ce rapport de force très déséquilibré au sein de l'hémicycle. Et on sent que les duels électoraux sont quasiment rares, sinon inexistants, parce qu'on a affaire à une majorité éléphantesque. Et donc, pour que le cash ou l'UDPS existe, eh bien, elle peut compter que sur son alliance avec le FCC. C'est de cette manière que l'UDPS peut sauver sa face dans cette assemblée ou dans cette coalition. On a véritablement affaire à une majorité éléphantesque, et c'est là qu'on est un peu préoccupé à connaître quelle est véritablement la politique, quelle est la stratégie réelle de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS veut jouer à une véritable coalition, à une véritable alliance avec le FCC? Quel est son véritable jeu? Parce que quand vous vous référez à ce qui vient de se passer, et notamment on a eu l'affaire à deux positions qui étaient opposées, entre convoquer un congrès et convoquer l'Assemblée nationale séparément du Sénat. Et vous avez là le FCC qui semblait soutenir l'hypothèse du congrès, alors que l'UDPS était en faveur de les convoquer de manière séparée. Évidemment, Jean-Marc Kabounda est tombé parce qu'il a voulu justifier, il a voulu trouver une explication pour écarter l'hypothèse de la convocation du congrès. Et c'est là qu'il s'est perdu, évidemment, dans des chiffres et des calculs, ce qui a fait qu'il a été rattrapé. Une autre leçon qu'on peut tirer, c'est en fait ce pari très risqué de Jean-Marc qui y a choisi d'être à la fois président d'un très grand parti politique, mais aussi vice-président de l'Assemblée nationale. Quand on sait qu'une telle fonction vous oblige à une très grande réserve. Et on sait également que Jean-Marc n'a pas l'habitude d'avoir sa langue dans la poche. Et donc, ce choix m'a paru un choix risqué. Il fallait faire un choix qui était celui soit d'aller à l'Assemblée nationale et d'être astreint à l'obligation de réserve, ou alors de rester au parti et donc d'avoir la liberté de sa parole. Ça a été également une grande leçon à tirer. Et finalement, on a affaire à un Jean-Marc qui est d'abord affaibli de l'intérieur au sein de son propre parti, et le fait de n'avoir pas redynamisé ce parti pour en faire une véritable arme de combat politique, le prive et prive également au chef de l'État, de s'appuyer sur un outil important dans l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, l'IDPS est un parti complètement affaibli du fait de plusieurs problèmes qu'il rencontre et de plusieurs clans qui les caractérisent. Là, vous avez tous les ingrédients qui étaient réunis pour que tout ce qui arrive aujourd'hui arrive.
Alors, il y a cet auditeur, Espoir Tamba, qui dit ceci, la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale entre dans les cadres d'une correction. Cela veut dire que Jean-Marc Kaboun, dans sa qualité de premier vice-président de l'Assemblée nationale, ne pouvait pas affirmer que la convocation du Congrès coûterait 7 millions de dollars sans en apporter des preuves. Sa destitution suit la ligne droite du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale.
Je venais de le dire tout à l'heure. Ce genre de fonction vous oblige à une certaine réserve. Et donc, lui, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale, ne pouvait pas se lancer à des déclarations de ce genre. Il était astreint à une certaine réserve. Il fallait peut-être que le secrétaire général du parti puisse faire une telle déclaration. Eh bien, on l'attribuerait donc à l'UDPS. Et aujourd'hui, le reproche qui lui est fait, c'était d'avoir avancé ce chiffre. Évidemment, il n'y a eu pas une concertation au niveau du bureau, et donc cela a été mal perçu au niveau des autres partis. Donc au niveau de... Parce que quand vous regardez, vous allez vous rendre compte, et ça c'est un autre enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'en fait, cette affaire semble avoir mis ensemble, ça semble avoir rapproché aussi bien le FCC que l'opposition. Et donc, les déclarations de la prise de position de Jean-Marc Kaboun a été récupérée à la fois et par le FCC et par l'opposition. Et donc, l'occasion faisant les larrons, eh bien, c'est un membre de l'opposition qui présente une pétition. Mais vous voyez que derrière la pétition, il n'y a pas que l'opposition. Il y a également les alliés de l'UDPS, donc le FCC. Eh bien, ils ont profité de l'occasion pour mettre Jean-Marc Kaboun dehors.
Alors, professeur, le fait d'avoir fait ce genre d'allégation peut vraiment pousser à la déchéance ou à la destitution d'une personne. C'était tellement flagrant ce qu'il a allégué.
Ah, pas du tout, pas du tout. Ça ne pouvait pas pousser à la destitution de Jean-Marc Kaboun. C'est des choses qui peuvent arriver, les dérapages verbales. Et puis, c'est des choses qui s'arrangent au niveau politique dans des concertations entre alliés. Donc, en principe, ça devait se terminer dans les concertations au niveau des alliés, notamment le FCC et le CASH. Mais est-ce que ces concertations ont eu lieu? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Apparemment, elles n'ont pas eu lieu. Et donc, on s'est précipité donc à l'éjecter. Et voilà, il est parti. Il est parti. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est oui, il est parti, et demain.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Docteur Didi Manara, il y a cet auditeur, Alain Bouy Moussenga, qui nous écrit depuis Kinshasa, qui dit ceci, cette décision aura des effets inéluctables sur cette coalition, d'autant plus puisque du côté CASH, la majorité des cadres et militants ne voulaient pas de cette alliance et surtout que le député FCC ont appuyé massivement la motion d'un opposant. La raison de cette déchéance n'est pas probante. Bref, le FCC vient de commettre une erreur qu'il ne fallait pas commettre. La question que je me pose est celle de savoir si c'était nécessaire de déchoir Kaboun dans cette période où le monde entier est concentré à lutter contre la COVID-19 et le pays sous la menace des rebelles. Le Parlement congolais vient de ternir l'image de la RDC à travers le monde. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur, docteur Didi Manara?
Non, merci beaucoup de la question. Là, il pose la question sur l'avenir de la coalition FCC-CASH. Mais permettez-moi, madame, de revenir un tout petit peu sur des petits points qui ont été évoqués par l'interlocuteur, M. Batumona. Lorsqu'il affirme inéluctablement que la pétition a été endossée par le collègue Jean-Jacques Mamba, j'aimerais lui dire tout de suite qu'il ne faudra pas qu'il dise des choses comme ça. Ça peut être une imputation, une déclaration imputable, donc passible d'une imputation dommageable. Le collègue Jean-Jacques Mamba est député national et il a agi selon les prérogatives constitutionnelles. Il est en prison, s'il vous plaît, ne continuons pas vraiment à endurcir ces peines qui sont du reste injustifiées. Et puis des deux, madame, lorsque M. Batumona dit qu'il salue les 17 députés, ça doit être les députés de l'UDPS, je mets ma main à couper, il n'a aucune preuve que les 17 les 17 voix qui ont voté contre sont de l'UDPS. Parce que d'abord, le vote est secret. Comment a-t-il su que c'était les 17 votes, c'était les députés de l'UDPS? Comment? Est-ce qu'il peut-il me le prouver? Je ne pense pas qu'il peut le prouver. Et pour mémoire, madame, peut-être que notre collègue Batumona ne connaît pas la composition au sein de l'Assemblée nationale. À cette Assemblée-là, l'UDPS a 32 députés. À lui seul, 32. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu 32 voix contre? Il y a eu 32. Et si on pense qu'à, c'est-à-dire l'UDPS plus UNC, ils sont à 48. Parce que l'UNC a 16 députés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu 48 contre? Il n'y a eu que 17 contre. Cela veut dire que même au sein de l'UDPS, il y a des députés, je suis presque certain, je ne l'affirme pas, qui ont voté contre ou pour le départ de M. Kaboul. Voilà. Ça, c'est une définition d'État. Est-ce que le FCC est à lui seul majoritaire au niveau du Parlement? J'ai dit oui. Voici le poids politique au niveau de l'Assemblée nationale. Le FCC a 337 députés, ce qui représente 70% des députés. Le CACH a 48 députés seulement, 10%, et l'opposition a 96, ça fait 20%. Donc, à nous seuls, comme FCC, nous constituons la majorité parlementaire au niveau de cette institution-là. Est-ce que la question Kaboul peut ébranler la coalition? Je ne le pense pas, madame. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Et dans ce régime semi-présidentiel, il est dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Mais le gouvernement est l'émanation du Parlement, mais au sein duquel on déniche la majorité, et le gouvernement, c'est l'émanation de la majorité parlementaire. Cela veut dire que le Premier ministre, tous les ministres seraient membres du FCC. Est-ce que cela pourrait amener à une gestion plus ou moins logique et normale du pays? Voilà pourquoi moi je salue l'intelligence, la sagesse, et nos deux autorités, c'est-à-dire le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et le président Joseph Kabila Kabange, qui ont dit, mettons-nous ensemble, mettons nos forces ensemble pour que le pays soit dirigé collégialement. Et ça, c'est une sagesse vraiment à saluer, et je pense que c'est ce qui fait la paix jusqu'à présent au niveau de notre pays. Mais, alors,
essayer de le retrouver. Monsieur Laurent Batumona, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, madame.
Il y a une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa de la part de Didier Serge Moussanga qui dit ceci, une imprudence verbale qui fait payer à Monsieur Kaboun son fauteuil. Il a tweeté et s'est dit être content de quitter le poste la tête haute, même si en réalité c'est pas ça. Il a fait des allégations, nous avons cru en ce qu'il a dit, mais il a raté l'occasion en or de le démontrer en plénière. La coalition vivra avec ou sans M. Kaboun. On ne se permet pas tout au nom de la coalition.
Oui, madame, je voudrais d'abord revenir à la pétition. J'ai plutôt semblé dire que si la pétition est arrivé à la déchéance de l'honorable Jean-Marc Kaboun, ça signifie qu'elle a été supportée pratiquement au-delà de 70% par nos amis de FCC. Voilà pourquoi j'ai tenu cette possibilité de parole. Mais je crois que le président Jean-Marc Kaboun, il a fait son devoir. Son devoir était celui de pouvoir défendre son président qui est aujourd'hui le président de la République. Imaginez-vous, comme l'a dit le professeur analyste, que si le Congrès s'était réuni, qu'est-ce qui adviendrait par rapport à cette circonstance de l'époque? Peut-être que les circonstances ont changé parce que les deux chambres ont siégé séparément. Et ce qui est regrettable, au lieu de gérer les questions essentielles du pays, nous gérons les remue-ménages qu'il y a dans cette famille FCC-CACH. C'est ça qui est regrettable. Et la population, dans son entièreté, est en train de déplorer. Au lieu de gérer les questions essentielles du pays, aujourd'hui nous sommes avec les gros problèmes de la crise sanitaire concernant le coronavirus. Demain, le lendemain, nous allons gérer la crise sociale et économique dont les conséquences ne sont pas encore connues. Et rendez-vous compte, déjà, les budgets qui étaient adoptés au mois de janvier sera revu à la baisse. Donc, ce sont des questions essentielles qui concernent la vie sociale de la population. Mais aujourd'hui, la politique est tournée vers les questions où telle famille politique n'est pas d'accord à telle autre. Mais comment nous allons finir ces mandats pour lesquels le Congolais pensait que ça devait être une réussite? Et c'est véritable aussi de cette manière-là que nous allons gérer la coalition jusqu'en 2023. Voilà, madame.
Merci, monsieur Laurent Batumona, professeur Félicien Kabamba. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Moi, je me demande si à quel niveau il y aura d'impact sur la coalition entre SCC et CAC. D'abord, au niveau des institutions. Chacun garde sa part, puisque le poste de vice-président revient toujours à l'IDPS, donc revient toujours au CAC. Et là, en tout cas, je pense vraiment qu'il y aura des problèmes, puisque les gâteaux se partagent tel que ça a été convenu. Au niveau de la base, et surtout celle de l'IDPS, je crois qu'ils ont constaté que leur partenaire ne joue vraiment pas les jeux sincères. Il n'est vraiment pas sincère dans les jeux. À chaque fois qu'ils se lancent dans un défi, ce sont toujours eux qui perdent. Alors, une telle incidence, en tout cas, ne sera vraiment pas bien sur la base. Il ne se retrouve pas de la part au moins de ceux qui sont en train de diriger, que ce soit du côté du FCC ou encore du côté des CAI. Au niveau de la population, en tout cas, nous faisant partie de cette population, nous constatons, depuis que cette coalition a dû commencer, il y a toujours des problèmes, mais il y a toujours des problèmes à régler. Et ces problèmes ne nous ont jamais été avantagés.
Professeur Félicien Kabamba, comment vous réagissez à cette réaction de Claude Musombo, Bali Mbala, qui nous appelle depuis Kinshasa? Est-ce que vous pensez que cette destitution pourrait avoir un impact sur la coalition FCC-CACH?
Cette destitution occasionne une grande fissure au sein de la majorité. Du côté du CACH IDPS, on considère que le FCC vient, si vous voulez, de procéder à la destitution d'un membre de la coalition de façon unilatérale. Et qu'il n'y a pas eu une concertation au niveau de la coalition pour se mettre d'accord sur le départ de Jean-Marc. Et ça, c'est une fissure très importante parce que au sein de la coalition, on est supposé dialoguer et continuer à dialoguer pour finalement trouver des réponses. Mais est-ce que cela va provoquer l'implosion de la majorité? Je ne crois pas véritablement, parce que la marge de manœuvre de CACH est très limitée, étant donné que, comme je venais de le dire, l'Assemblée nationale est composée en majorité, d'ailleurs c'est une majorité éléphantesque du FCC. Et du coup, d'ailleurs, le maître Didier Manara venait de le dire, qu'en fait, pour être majoritaire, ils n'ont pas besoin d'avoir CACH. Ils ont déjà une large majorité. Ce qui rend évidemment la marge de manœuvre de CACH très très limitée. Mais est-ce que le poste va être réoccupé? Est-ce que l'UDPS va désigner quelqu'un d'autre pour occuper le poste de vice-président? Eh bien, là, la décision revient à l'UDPS. Il a soit l'option de laisser ce poste et le dire, voilà, j'avais placé quelqu'un, vous l'aviez vous-même déboulonné, ou alors l'UDPS va se dire, ok, je reprends quand même ce poste parce qu'il m'appartient, étant donné que c'est un poste stratégique. Et donc, vous avez là une marge de manœuvre, mais qui n'est pas très grande au sein de l'hémicycle, donc de l'hémicycle par le CACH. Et ça, le CACH devra apprendre, si vous voulez, à jouer avec pendant tout ce mandat. Et ça va quand même être un problème très sérieux au niveau du CACH.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Est-ce que le docteur Didi Manaré est en ligne?
Non, c'est les réseaux.
Docteur Bidi Manara, quelle est la suite des événements? Est-ce que un vote sera organisé pour l'élection du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, et ça se fera quand?
Je le confirme. Ici, j'insiste, je dis que la coalition SSCH ne peut que, ne doit que continuer. C'est poursuivre pour une bonne marche des institutions de la République et un avenir meilleur de la population congolaise. Il y a trop de problèmes, madame. Alors, la coalition ne peut pas s'interrompre parce que le problème, c'est la personne Jean-Marc Kaboun. C'est la personne Jean-Marc Kaboun. Ce n'est pas le cash, ce n'est pas la coalition. Madame, le comportement de Jean-Marc Kaboun n'a pas soigné l'image de l'UDPS. N'a pas soigné l'image du chef de l'État, président de la République, par son comportement. Vous avez suivi le professeur Kabamba. Son comportement, par manque de réserve, lorsqu'on occupe une fonction de si haute facture, madame, lorsqu'on porte un tel chapeau, on ne doit pas par moment laisser dans les vestiaires un poste aussi important et se comporter comme un militant, avec des déclarations. Vous allez nager, merci. Vous allez faire ceci, vous verrez. Oui. Voilà pourquoi je dis que le poste
merci.
Le premier vice-président est réservé au cash et ça sera ainsi. Si le cash, il y a l'UDPS, il y a l'UNC. Si le cash, l'UDPS ne veut pas de ses postes, eh bien on va voter quelqu'un de l'UNC. Mais je crois qu'on n'en arrivera pas là.
Merci, docteur Bidi Manara. On considère cela comme votre conclusion parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Laurent Batoumona, un mot en guise de conclusion.
Il faut les voir. Donc il faudra que l'état-major de l'UDPS se réunissent pour pouvoir tirer les conséquences de cette échéance.
Professeur Félicien Kabamba, un mot en guise de conclusion.
Oui, en fait, au niveau du FCC, on a toujours considéré que Jean-Marc Kabunda navigue à contre-courant du FCC. Et donc, il faudrait aujourd'hui que la majorité redéfinisse son mode opératoire. C'est de cette manière-là que, plus ou moins, on peut assister à une certaine fluidité politique au niveau de la majorité.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais. Guy Maté, qui était à la réalisation avec le concours de Dona Madimba. La mise en onde était assurée par Patrick Kiasongwa. Supervision, Axel Goncho. Présentation et coordination, Kéline Couté. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.